On m'a demandé de représenter la vision du pourquoi nous avons tellement à cœur l'éducation. Alors pour les enseignants qui êtes là ou les anciens, vous m'avez peut-être déjà entendu souvent, désolé, c'est rabâché, mais c'est pour que ça rentre dans le cœur. En tout cas, tout à l'heure, pendant la louange, vous savez, quand je voyais danser quelques-uns d'entre nous, dont des enseignants, je me disais, dont Véronique, institutrice maternelle, je dis, le jour où les enseignants de ce pays danseront devant Dieu, avant de rentrer à l'école, eh bien, on aura atteint quelque chose de particulier. Et Dieu est en train de restaurer l'éducation en France, et nous avons un rôle en tant qu'Église. On veut commencer, j'ai un PowerPoint à vous présenter. Alors, voilà, l'éducation au cœur d'un combat. Tout à l'heure, on chantait « Élever Dieu », et souvent on a l'expression « Élever les enfants hein ». Il faut élever les enfants. La question c'est, les élever vers qui ? Les élever vers qui ? Ce n'est pas de l'élevage, hein, ce n'est pas comme les animaux, j'élève des chevaux, mais c'est les élever. Rappelez-vous le sens de ce mot. Le signe du Christ dans l'éducation, c'est une façon de présenter la vision qui m'est venue il y a déjà un peu plus d'un an, la notion de signe. Et on veut vous montrer qu'il y a un combat aujourd'hui gigantesque entre plusieurs façons de voir le monde, plusieurs conceptions. On a passé 3 jours avec les enseignants là sur la philosophie de l'éducation et on peut voir donc ces combats de conception du monde. Si on peut passer à la diapositive, ça marche pas ? Ah, c'est bizarre alors. Un combat entre visions du monde. Jérémie 1, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, que tu bâtisses et que tu plantes. Et je crois que le Seigneur veut bâtir dans notre pays. Il veut planter. Il veut planter des ministères. Il veut planter des écoles, des églises. Il veut planter son royaume. Et cela, ça commence aussi par le fait d'abattre et de détruire et d'arracher. Mauvaise racine, mauvaise conception du monde, mauvaise façon de voir Dieu. Il y a un enseignant, un théologien qui disait « La tâche du ministère prophétique, c'est de nourrir et d'évoquer une perception et une conscience alternative à la conscience et à la perception dominante de la culture. Le prophète doit être critique par rapport à la vision du monde dominante. Il doit la dénoncer, la démanteler pour dynamiser la communauté chrétienne avec une autre vision du monde, une autre imagination. Le christianisme ne consiste pas seulement à avoir une vision juste de Dieu. Le christianisme consiste aussi à avoir une vision juste du monde. Et Dieu nous dit, je veux que tu connaisses la création dans laquelle tu es, comme moi je la vois. De la même façon qu'il veut qu'on se connaisse avec ses yeux à lui. Il n'y a aucun domaine de la création où il ne veut pas dire, voilà mes yeux, voilà mon regard. Jésus un jour devant les pharisiens et ses disciples aussi, il leur a dit, vous savez, vous avez entendu dire ceci, cela, cela, mais moi je vous dis. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu dit sur les domaines de la création et de la vie? Qu'est-ce que Dieu dit de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce que la création? La question, ce n'est pas qu'est-ce que le monde dit, la question, c'est qu'est-ce que Dieu dit. La restauration de l'éducation chrétienne, c'est la restauration du discours de Dieu sur l'homme, sur la création, sur tout le cosmos. Et ça, c'est le pourquoi nous engageons un combat déterminé. Une guerre entre deux sagesses. L'apôtre Paul déjà, et dans Corinthiens, mais aussi Jacques, nous parle de deux sagesses. Il y a une sagesse qui n'est pas d'en haut, dit Jacques. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Donc la racine d'une sagesse indépendante de Dieu, elle a une racine diabolique. Il n'y a pas de neutralité dans le monde. Où on est avec Dieu, ou on est contre lui. Et les discours sans Dieu sont des discours qui ont une racine diabolique. Le cœur de l'homme, il choisit au début un choix pour Dieu ou un choix contre Dieu. Et ce choix pour Dieu ou contre Dieu va déterminer sa façon de voir l'enfant, l'éducation, l'église, l'économie, les finances, tout ça. Tout dépend d'un choix du cœur. Et donc, Jacques nous dit, attention, il y a une sagesse qui n'est pas d'en haut. Et comment on la voit? Eh bien, la sagesse d'en haut, elle se mesure comment? Elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Et donc on voit ici Le cœur d'éducation, selon Dieu, c'est former des caractères. Alors, nous sommes ici, je vais surtout mettre l'accent sur la notion d'école, mais il est bien évident que le cœur de Dieu, c'est les parents. Hein. Il y a les écoles chrétiennes sans les parents, ce n'est pas grand-chose. Le ministère, la vocation, la responsabilité de l'enseignement, c'est les parents. Mais c'est les parents aussi dans le sens de la communauté. Et pour un juif, une famille, ce n'est pas papa, maman, les enfants. Pour un juif, la famille, c'est la famille de Dieu. Et donc, c'est la famille de Dieu qui est responsable de l'éducation. Donc, les oncles, les tantes, les ministères dans l'Église, la communauté des croyants. Et donc, nous voyons cette sagesse. Le but, c'est de transmettre la sagesse de Dieu. Et un aspect de la sagesse de Dieu, c'est le caractère. C'est le caractère selon Dieu. Et ensuite, on voit 1 Corinthiens 19-21, « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, Dieu dit, je détruirai l'intelligence des intelligents. Parfois, on dit, mais est-ce que Dieu, il est contre l'intelligence? Mais pas du tout. Mais sauf, Dieu dit une chose. Tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence se trouvent en lui. Hors de lui, il n'y a aucune sagesse, dans le sens plein du terme, mûr du terme. En dehors de lui, les discours sont partiels, sont faux, sont vains. Donc, il est celui en qui sont tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence en dehors de Dieu. Alors, tout ce qu'on parle de coefficient intellectuel, etc., c'est des normes humaines. La norme de Dieu de l'intelligence, la définition, c'est la haine du mal, Job 28-28. Donc nos définitions doivent être les définitions de Dieu et de sa parole. Alors cette guerre, il y a deux sources, on peut aller à la diapo suivante. Vous avez un arbre de vie, c'est un bel arbre que j'avais croisé en Afrique du Sud. J'avais été étonné de ces magnifiques arbres. Et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça c'est le problème de l'homme. C'est un problème de connaissance. Adam et Ève, ils ont voulu connaître les choses, mais sans Dieu. Hein, d'accord ? Ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait des tas d'autres arbres sur lesquels ils pouvaient manger. Il y avait aussi cet arbre de la vie qui est Dieu. Et ils ont dit, il y a seulement un arbre auquel tu ne vas pas manger. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je ne veux pas que tu connaisses les choses, le bien, le mal, le cosmos, l'histoire, la géo, les lettres, la musique, sans moi. Sans moi. Il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas un domaine de la vie dont le Christ ne dise pas « c'est à moi ». Et donc, le « c'est à moi » du Christ, c'est l'arbre de la vie. Quand je puise dans l'arbre de la vie, je vois toutes les choses autrement. Je les vois autrement. Je donne d'autres définitions. Il y a un autre sens. Il y a un autre pourquoi, il y a d'autres raisons, voyez. Donc l'éducation scolaire, universitaire, c'est pas transmettre des faits seulement, même s'ils sont justes, mais c'est transmettre le sens des choses. Enseigner en vérité, c'est pas enseigner des faits, mathématiques, historiques, etc. C'est enseigner les faits avec le sens, avec la destinée, avec la finalité, avec le regard de Dieu. Et Dieu nous dit, je veux que tu puises dans l'arbre de la vie. Ça suffit de ces gens qui disent « Moi, je connais, je n'ai pas besoin de Dieu. » D'accord ? Et en tant qu'Église, on a dit « Ça suffit. » En tant qu'Église, on a dit maintenant « Stop !» Et on veut puiser dans l'arbre de la vie. Alors attention, il faut des enseignants dans les structures publiques, des chrétiens, bien sûr. Mais là, je parle d'une vision de l'éducation de nos enfants. Et Dieu dit « Attention, deux armes, lequel on va manger ?» Alors il y en a parfois qui disent « Oui, mais moi je transmets quand même la parole de Dieu, tout ça, et mon enfant il aime Jésus, c'est très bien. » Le problème est le suivant, c'est que Dieu nous dit « Fais des disciples » et il n'a pas dit « Fais des chrétiens », des gens qui ont une réconciliation avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, c'est le fondement sur lequel on doit bâtir avec de l'or et de l'argent. Donc le but pour un parent, ce n'est pas que l'enfant soit au Seigneur, le but pour un parent, c'est que l'enfant soit un disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui va penser comme Dieu. C'est quelqu'un qui va non seulement avoir une relation avec Dieu, mais qui va voir le monde comme Dieu le voit. Et ça, c'est le grand défi. Et ça ne peut pas se faire, c'est impossible à réaliser. Une génération qui pense comme Dieu sans école chrétienne. 1 Samuel, j'ai une citation. Vous avez un passage assez terrible dans les Écritures où on ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyo, sa hache, sa bêche, quand le tranchant des bêches, des hoyos, des tridents, des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et Jonathan. Israël a vécu des temps difficiles, des temps où les Philistins dominaient, des temps où les Juifs se cachaient. Chaque récolte qu'ils faisaient, c'était volé par les Philistins. Parce que les Philistins avaient dit, empêchant les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Les commentateurs juifs et chrétiens de ce texte nous disent que les forgerons, ce sont les enseignants. Les forgerons, forger des épées et des lances. Les enfants sont des flèches, tailler les flèches. C'est le mot yachad en hébreu, ça veut dire tirer des flèches. Tu inculqueras la parole à tes enfants, ça veut dire tu aiguiseras la parole. C'est tout un vocabulaire de flèches, d'armes et d'épées. Et donc nous avons ici les Philistins, ils ont dit empêchons les Hébreux. Un jour, il y a un peu plus d'un siècle, un ministre en France a dit nous voulons créer une société sans Dieu et sans roi. Jules Ferry, 1880. Mon ambition politique, dit-il, c'est de créer une société sans Dieu. Parce que Dieu dans la tête des Français, c'était les superstitions. C'était ce qui empêche la science de s'épanouir. C'était un Dieu qui oppresse l'homme et qui empêche la croissance et la maturité, parce que la maturité était considérée, on n'a plus besoin de Dieu une fois qu'on est mûr. Cette pensée-là, du 19e siècle et du 18e, a forgé la façon de voir l'éducation. Et donc Jules Ferry a été celui qui a dit, voilà, une société sans Dieu, c'est une société où l'école devient laïque. Et donc, heureusement qu'il y a l'école de l'État en France, heureusement, parce que sinon, il y aurait quoi? Donc, merci Seigneur pour les écoles. Mais attention, derrière, il y a toujours une philosophie. Et les Philistins ont dit, empêchons les chrétiens de former leurs enfants. Empêchons-les. Et les chrétiens, depuis un siècle, ont dit, oui, monsieur le Philistin, tout ce que tu voudras, monsieur le Philistin. Si c'est l'État qui doit éduquer, c'est comme ça, c'est très bien comme ça. Pendant 2000 ans, c'était le contraire. Toute la tradition juive, ça a été les familles, la communauté. Mais aujourd'hui, c'est l'État, c'est comme ça, c'est très bien. Le premier qui a eu l'idée que c'est l'État qui enseigne, les nations qui enseignent et pas les familles, c'est Jean-Jacques Rousseau. Et Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, pour la première fois dans l'histoire, il a dit, les parents sont inaptes à éduquer leurs enfants. Il a dit, les pères sont inaptes, il faut que ce soit la nation qui éduque les enfants. Et petit à petit, cette idée s'est faite. La Révolution française est venue. Et à la Révolution, on a dit, maintenant c'est terminé, le but de la formation, ce n'est pas former des chrétiens, c'est former des citoyens. Il faut que le premier catéchisme des enfants, ce soit la République, etc. On retrouve le même discours. Notre ministre actuel a écrit un livre qui s'appelle « La Révolution n'est pas terminée ». Et il dit, nous retrouvons le langage révolutionnaire aujourd'hui encore. Donc les forgerons, voyez, ce sont les enseignants. Et quelque part, la France s'est pliée devant les Philistins en disant, voilà, eh bien on accepte ça comme ça. Donc un forgeron, ça veut dire un bâtisseur, un maçon. Je me rappelle, il y a beaucoup de textes dans les Écritures où il y a des prophètes qui se lamentent, qui voient les cornes des nations envahir Israël, détruire la nation, et disent, mais Seigneur, jusqu'à quand? Et les prophètes ont reçu une vision et ils ont vu des cornes, des maçons, des forgerons. Et ces forgerons, des charpentiers, des bâtisseurs, tout ça c'est le même mot que enseigner, tailler des flèches. Donc voilà, nous sommes dans un combat, une guerre. L'enseignement est une arme, voyez, tirer des flèches, enseigner. Deutéronome 6, tu inculqueras, ça veut dire tu aiguiseras. Et les enfants, il est parlé de flèches dans le carquois. Alors le problème, pour avoir un gros carquois, très gros carquois, 4, 5, 6, 7 flèches. Mais le problème, c'est que les flèches, elles pourront ne jamais atteindre la cible. Parce que ce qui fait atteindre la cible, c'est inculquer la parole. Et la parole, c'est pas seulement la parole du dimanche, mais c'est la parole du lundi, du mardi, etc. En fait, l'école du dimanche, le concept est un concept qui est très bon, mais qui devrait devenir l'école du lundi aussi. Parce que pourquoi l'école du dimanche et pas l'école du lundi? Mince, alors vous avez vu l'incohérence là? Donc nous sommes pour l'école du dimanche et l'école du lundi et l'école du mardi et l'école du mercredi, parce que l'école c'est l'affaire de Dieu. La formation c'est l'affaire de Dieu. Il a quelque chose à dire. Donc l'enseignement est une arme. Maintenant pourquoi le signe? Question de signe. Et tout simplement parce que dans la Bible, il y a l'interpellation des prophètes, on peut aller à la diapo suivante, qui disent, voilà, Où sont passés les repères? Où sont passés les signes? Les signes, ce sont des signaux pour qu'on puisse marcher et pas se tromper. Le code de la route, il faut des signaux. Sinon, tu te malheur, c'est ça. Il y a vite des accidents. Donc, il y a des signaux. Et alors, les repères, aujourd'hui, sont en train de changer. Vous avez, par exemple, le mot « famille » qui est en train d'être défini autrement. Qui c'est qui le définit autrement? Le problème, c'est à qui de donner les définitions? C'est pas à l'homme, c'est pas à nous. Dieu donne des définitions dans sa parole. Il dit voilà, une famille c'est ça, un enfant c'est ça, un homme c'est ça. Et les hommes ils arrivent, ils disent moi je veux pas de cette parole. C'est moi qui veux être le repère, c'est moi qui veux être le signe. Et le problème c'est qu'on se trouve avec les mots qui s'effacent. Hein, ce qui s'efface. Je rappelle pour la rentrée prochaine et déjà les instituteurs sont, on leur demande de plus employer le mot. Garçon, fille, père, mère, ça devient difficile. C'est vraiment une guerre de définition. Ça fait 20 ans que cette guerre existe dans les universités. Elle a mis 20 ans à venir dans les écoles. C'est en train de venir partout. Donc ensuite, vous avez le mot école maternelle. Dans une vallée des Vosges, pour la première fois, une école maternelle est née avec cette fille Louise Schepler et Sarah Banzet avec Oberlin. Pour la première fois en histoire de France, une jeune fille s'occupe des enfants au-dessous de 6 ans. Une idée comme ça, une idée de Dieu. Et alors, elle leur apprenait à chanter, à louer Dieu, à adorer. C'était le premier programme scolaire des maternelles en France. La louange, l'adoration. Louise Schepler disait, quelqu'un lui disait, mais c'est quoi ton programme scolaire? Et elle répondait, mon programme scolaire, c'est que les enfants puissent connaître Dieu, l'aimer, le louer et le reconnaître dans toute la création. Faire sentir sa présence partout. Louise Schepler, 18e siècle. Nous avons origine des écoles maternelles. Et le mot maternelle aujourd'hui veut être effacé. Pourquoi? Parce qu'il parle de la maman. Pourquoi on veut l'effacer? Parce que l'école, ce n'est pas l'école de la maman et du papa, c'est l'école de la nation. Donc il faut arrêter avec tout ce qui est langage qui pourrait montrer le rapport entre la famille et la nation. Aujourd'hui, le discours, c'est qu'il faut ôter les enfants des déterminismes familiaux et culturels. Ça, c'est le discours du gouvernement. Il faut que tous les déterminismes religieux, philosophiques, familiaux, il faut ôter les enfants de ces carcans-là pour qu'ils soient libres. Et ça, c'est le discours officiel. On ne peut pas rester... Donc, nous, en tant qu'Église Josué, il y a un rôle prophétique que nous avons. Et nous croyons que dans les temps qui viennent, comme j'ai déjà dit depuis des années, depuis 20 ans, un jour, ça sera tellement normal que les églises s'occupent d'école, qu'on dira c'est ringard. Mais aujourd'hui, nous avons une bataille à mener. Pourquoi on s'appelle Josué? Parce qu'il y a une guerre à faire, parce qu'il y a des terrains à prendre. Si vous voulez rejoindre cette église et que vous n'aimez pas vous battre et vous aimez la tranquillité, le repos, choisissez une autre église, s'il vous plaît. Parce qu'ici, il y a du combat, il y a des batailles, ce n'est pas toujours facile. Et le domaine de l'éducation, c'est qu'un des domaines qu'on veut reprendre. Le discours que je fais là, on pourrait le faire pour les autres domaines que porte Caleb, la saison Caleb. Alors où sont les signes? On veut continuer. Le psaume 74, porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes ennemis ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Voilà, ça c'est... Nous sommes dans une guerre de signification. On continue. Psaume 74, ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Personne parmi nous qui sait jusqu'à quand. Un peu les juges qui disaient en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. On a un peu l'impression que le domaine de l'éducation, c'est un peu ça. À chaque ministre, il y a une réforme, etc. Ce qui était bon il y a 20 ans, c'est considéré comme pourri aujourd'hui. Ce qui est considéré comme pourri aujourd'hui, c'est considéré comme très bon il y a 20 ans. Ça bouge, comme la mer, les marées, tout ça. Mais Dieu est un Dieu qui ne bouge pas. Il est immuable, il reste le même. Ses valeurs restent les mêmes. Et nous devons ancrer la façon de voir l'éducation et de la vivre sur des choses pas éphémères, mais sur des choses éternelles. Et qui sont la vérité de Dieu et le cœur qu'il a pour nous. Donc les signes, c'est un peu comme le bateau de Paul. Un jour, vous savez, il est parti pour aller sur Rome et il a dit « Attention, si on prend ce bateau, il y aura une tempête, ça va chauffer, on n'est pas sûr d'arriver. » Et au milieu, bien sûr, du voyage, il y a cette tempête. Se croyant maître de leur dessein, il est dit « Ils levèrent l'ancre ». Ils ont dit, on va y aller quand même, malgré l'avertissement de Paul. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Les étoiles et le soleil ne se voyaient plus. Et le mot enseigner, ça veut dire être un signe. Le prophète Daniel dit, ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme des étoiles. Les enseignants et le ministère d'enseignement dans l'Église, c'est pour briller comme des étoiles. Et sinon, le bateau de notre vie, le bateau de nos familles, il est au cœur d'une tempête et il peut rentrer dans un récit et s'abîmer. La perte de l'espérance allait de pair avec la perte des repères, des références habituelles pour pouvoir se diriger. Donc dans la crainte de heurter contre les écueils, ils ont jeté 4 ancres. Et aujourd'hui, l'ancre nous parle de l'ancre que l'on met en Jésus, l'ancre qui passe derrière le voile. L'ancre, c'est, on veut l'accrocher sur celui qui est le seul rocher, c'est Jésus. Donc ensuite, on continue le projet de refondation. Donc j'avais fait un texte qui je crois qu'il est sur le site internet d'établissement Daniel, sinon je vous invite à aller le voir. Et donc on doit prier pour nos autorités, on doit les aimer et en même temps on ne doit pas tout gober. C'est le principe de Dieu de discerner. Vincent Payon, je cite, le but de la morale laïque est d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel pour permettre à chaque élève de s'émanciper, car le but de l'école républicaine a toujours été de produire un individu libre. Le problème de la liberté, c'est quoi? Libre de quoi? La liberté, c'est être libre du péché et libre du mensonge. Il n'y a pas de liberté en dehors de Dieu, mais l'homme croit que Dieu est quelqu'un qui entrave la liberté. Et ça, c'est le grand problème en France. Et c'est un problème qui s'enracine dans une histoire de ce pays où on s'est détruit les uns les autres au nom de Dieu pendant les guerres de religion. Et donc, le français, il a les racines de notre vie sont des racines où Dieu égale guerre, égale extrémisme, égale intolérance, égale obscurantisme. Et ça, c'est ce qui fait qu'on a peur et qu'on ne veut pas ce Dieu dans tous les domaines. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu qui est clair, un Dieu qui ne s'oppose pas à la science, un Dieu qui valorise la science et les lettres, un Dieu qui valorise la réflexion personnelle, un Dieu qui veut travailler avec nous et nous communiquer les trésors de sa sagesse. Donc voyez, pour nous libérer de tous les déterminismes. Le ministre de la Justice, Christiane Taubira, disait que dans nos valeurs, l'éducation vise à arracher les enfants, aux déterminismes socio-religieux, en faire des citoyens libres. Rousseau, il adorait la liberté, c'était son Dieu. On retrouve ce même Dieu, cette même idole d'une liberté sans Dieu qui revient très fort aujourd'hui. On continue. Théorie du genre, donc vous savez, le projet de la refondation de l'école de la République prévoit que l'éducation à l'égalité du genre devienne une mission d'école élémentaire dès l'âge de 6 ans afin de substituer à des catégories comme le sexe, le concept de genre, qui montre que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées sur la nature, mais sont historiquement construites, socialement reproduites. Déjà, nous avons plusieurs parents d'élèves qui étaient dans les écoles publiques et ce qui a été déterminant pour leur choix, c'était au printemps les missions du gouvernement qui sont venues dans les écoles pour commencer à enseigner ça au niveau des classes. Et donc, ça, tout d'un coup, il y a eu une réaction au niveau des parents et tout d'un coup, une prise de conscience de ce qui était derrière là. Voyez, le récent rapport de l'inspection générale, donc je crois le mois de février dernier, recommande que l'école s'engage dans la lutte contre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, qu'elle déconstruise l'idéologie de la complémentarité homme-femme pour tendre vers une société égalitaire. Donc, nous sommes vraiment dans les crèches. J'ai eu Raphaël récemment, il y a des consignes pour que les couleurs de rose et tout ça ne soient pas toujours vues pour les filles et tout ça. Tout ce qui est déterminisme sexuel, il faut arrêter ça, voyez, pour ne pas influencer les enfants, même les petits. Donc les petites voitures, tout ça, il faut faire attention parce que ça pourrait influencer le garçon à devenir vraiment un garçon. Donc je veux dire, là ça devient... C'est pour ça que les crèches, mes amis, c'est notre mandat. Et on veut continuer de prier pour ça. Raphaël, ils travaillent, ils ont visité des locaux, ça avance. Il faut continuer à prier jusqu'à la naissance de cette crèche. Donc, voyez, les projets de refondation de l'école, on continue. Donc, ce rapport recommande aux enseignants de remplacer les appellations garçon-fille par des termes neutres, amis-enfants, de raconter des histoires dans lesquelles les enfants ont deux papas, deux mamans, etc. Il s'agit d'empêcher la différenciation sexuée. On continue. Voilà, donc des garde-fous, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Et heureusement qu'en Europe, il faut prier que ça ne change pas cette histoire. Parce que là aussi, il y en a qui veulent toucher ça. Le mois dernier, il y a eu des groupements qui ont proposé de mettre la Bible comme un livre discriminatoire. Et le jour où les tribunaux vont accepter cette demande, je ne vous dis pas le ricochet qu'il risque d'y avoir. Donc nous sommes vraiment dans une bataille, et Dieu nous dit, la bataille, c'est « prends le terrain que je t'ai donné ». Donc la déclaration des droits de l'homme, la famille est l'élément naturel fondamental de la société et a droit à la protection de la société civile et de l'État. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Et le pacte international relatif aux droits civils, les États se sont engagés à respecter la liberté des parents de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions. Et voyez, la Convention européenne des droits de l'homme dit « L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » Donc nous avons ici un garde-fou qui s'enracine dans un passé judéo-chrétien au niveau de l'Europe. Alors le signe pour nous dans l'éducation, c'est Emmanuel. Emmanuel veut dire « Dieu avec nous ». Et Dieu veut être avec nous dans tout ce qu'on fait. Il n'y a pas un domaine de la vie qui ne l'intéresse pas. Il n'y a pas un domaine de la vie dont il ne veut pas être le Seigneur. Donc ce signe d'Emmanuel, on continue, Ésaïe 7, hein, je vous donnerai le nom, un signe, et ce signe, ça sera Emmanuel. Ce signe d'Emmanuel, c'est le Christ, et le Christ, c'est le repère fondamental dans toutes les catégories des lettres et des sciences. Il y en a qui connaissent plusieurs fois cette diapo, que j'aime beaucoup. En théologie, Jésus-Christ est la plénitude de la divinité. En philosophie, il est le verbe, il est le logos, il est le sophia, la sagesse hein, que les philosophes cherchent tant. En éthique, Christ est la lumière. En biologie, Christ est la vie. En psychologie, Christ est le sauveur, celui qui restaure les âmes, qui connaît ce qui est dans le cœur des hommes. En sociologie, Christ est le fils. Dieu parle de famille. Adam, la définition d'Adam, c'était fils de Dieu. Fils. Donc aujourd'hui, c'est la filiation qui est attaquée dans la société. C'est la définition même de l'homme qui est attaquée dès le départ. On continue. En droit, Christ est le législateur. En sciences politiques, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Sciences économiques, le propriétaire de toutes choses. Et il veut nous amener à une saine économie, une saine gestion. Est-ce que vous savez que j'ai lu un livre dernièrement qui s'appelle Présage, où on voit que le 11 septembre 2001, puis ensuite la crise économique qui est venue 7 ans après, correspondent au niveau calendrier juif à des dates où il fallait libérer les dettes. Et l'homme n'a pas voulu les libérer. Et donc, dans ce rapport économique d'oppression des gens et d'enfermement, au lieu de parler de la bénédiction, de libérer les dettes, il y a un jugement qui est venu, jugement non pour nous détruire, mais jugement sur les finances et une façon de voir l'économie, de façon à ce qu'on dépende de lui et qu'on n'oppresse pas nos frères et sœurs. En histoire, Christ est l'alpha, l'oméga. C'est en anglais, on voit bien « his story », son histoire. En éducation, Christ est le seul maître. La Bible dit « il y a un seul maître, c'est Christ ». C'est la Bible qui dit « il y a un seul sage, c'est le Christ ». Donc le Christ est le fondement, et le repère, et le signe dans tout le domaine de l'éducation, mais dans tous les domaines du savoir et des sciences. Il est le repère. Dans la Bible, il y a une distinction, bien sûr, entre la science et la foi. On n'est pas là pour tout mélanger, mais Dieu dit distinction, mais pas séparation. Dans l'épître de Pierre, il est dit « fais tous tes efforts pour joindre à la foi la vertu ». À la vertu, la science. La science est basée sur la foi. Et la science conduit à l'amour. On continue. Nous avons dans ce Christ qui est le signe et le repère de tout, nous avons Colossiens 2. On l'a lu tout à l'heure, le début, mais on continue avec le chapitre 2. Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée, pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous savez, l'église de Laodicée dans l'Apocalypse, vous savez, Jean donne des prophéties sur chaque église, et on dit que c'est des types d'églises, il y en a qui disent que ça caractérise les églises des différentes époques. L'église de Laodicée est l'église qui est tiède par excellence. Et dans chaque église, à chaque discours d'église, vous avez une clé que le prophète Jean donne au début. Il parle du Christ, d'une facette du Christ qui est la réponse au problème de l'église. pour Laodicée, il parle du Christ créateur. Le fait que la notion d'un Dieu créateur soit effacée de toutes les institutions de formation, même si on est chrétien un jour, notre pensée qui n'est pas fondée sur la notion de création, ça donne une tiédeur, ça donne un manque d'enracinement. Donc le Christ créateur, tellement important aussi. Alors la réponse de Dieu, c'est quoi? La réponse de Dieu, c'est enseigner. Enseigner, porteur de signes. Matthieu 28, il est dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant du nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le mandat d'enseignement de l'Église a toujours été un enseignement total. C'est depuis le 18e siècle qu'on a dit « Il y a un monde qui est sacré. » C'est la prière, c'est la Bible, c'est l'Église, c'est l'évangélisation. Et puis il y a un monde profane. C'est le monde des sciences, le monde des lettres, le monde de la philosophie. Tout ça, il n'y a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est tout récent. Mais le mandat d'enseignement, c'est le mandat d'un enseignement complet, total. Parce que justement, le Christ est le centre de tout. Et donc, enseigner les nations, c'est ça. C'est mettre Christ au centre, c'est être un signe, c'est être plein de significations. On continue. Christ au centre, Abraham Kuyper, un théologien et ministre, premier ministre en Hollande, début du XXe siècle, il n'y a aucun domaine de la culture dont le Christ ne puisse dire « c'est à moi ». Francis Schaeffer, un philosophe chrétien évangélique, « Dieu s'intéresse à l'homme tout entier, ainsi qu'à la culture née de jeux d'interaction des relations humaines ». Douyeweerd, philosophe protestant réformé, « Chaque culture est le produit de sa philosophie est l'expression de ses présuppositions religieuses ». Il y a des présuppositions en France qui font qu'il y a une philosophie, et sur cette philosophie est basée une façon de voir l'éducation. Dieu dit, si tu es prophétique, tu vas arrêter de manger de cet arbre, tu vas gratter le sol, tu vas regarder les racines qui sont là, tu vas regarder les philosophies, les présupposés qui sont faux, qui s'opposent à moi, tu vas les arracher, Jérémie 1:10, tu vas démanteler, et tu vas planter autre chose. Et ça, c'est la réforme. Ça, c'est l'esprit de la réforme. Donc on travaille dans des couches profondes, philosophiques. Et les philosophies, ça met des siècles à s'incarner dans une nation. Et parfois, on pense comme on pense parce qu'on a respiré ça tout le temps. On ne s'est jamais dit, mais au fond, qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? On continue. Vous avez Ampère, j'aime beaucoup cette citation d'un homme de science, un des plus grands scientifiques français. Nous sommes au 18e. « Étudie les choses de ce monde, c'est le devoir de ton état, mais ne les regarde que d'un œil. Que ton autre œil soit constamment fixé sur la lumière éternelle. Écoute les savants, mais ne les écoute que d'une oreille. Que l'autre soit toujours prête à recevoir les doux accents de la voix de ton ami céleste. N'écris que d'une main, et de l'autre tiens-toi aux vêtements de Dieu, comme un enfant s'en tient aux vêtements de son père. Que mon âme, à partir d'aujourd'hui, reste ainsi unie à Dieu, à Jésus-Christ. » Nous avons une tradition dans ce pays, dans toutes les nations, d'hommes de lettres et de sciences profondément enracinés dans l'adoration et dans le fait de mettre Christ au centre. On continue, une autre citation, « Nous devons remarquer que le salut ne concerne pas l'individu seulement, mais toute la culture. Christ est le Seigneur de tout, il est le maître de tous les aspects de la vie. Inutile d'affirmer que Jésus, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le Seigneur de toutes choses, s'il n'est pas aussi le Seigneur de ma vie intellectuelle et de sa cohérence. » On continue aussi, alors le premier devoir de l'Église, c'est un homme que j'aime beaucoup, j'espère que vous avez lu cet homme-là, Tozer. Il est connu dans les milieux évangéliques, il a écrit « Connaissance de Dieu », des petits livres qui se lisent très facilement, c'est très profond. Cet homme, il a dit « La conception selon laquelle le premier devoir de l'Église est de répandre l'Évangile aux extrémités de la terre est fausse. Son premier devoir est d'être spirituellement capable de le répandre. Répandre parmi les païens un christianisme dégénéré et moribond, ce n'est pas accomplir le commandement du Seigneur. » Donc, dans toute la tradition de l'Église, il y a une vision pour la formation. Par exemple, on parle du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, culture chrétienne, eh bien c'est au prix de quoi? C'est au prix d'une formation. Formation de 30 ans, pour la plupart, des enseignants et tout ça. C'était 30 ans. Vous ne pouvez pas être enseignant avant d'être théologien. Il fallait d'abord être théologien. Ensuite, tu pouvais te spécialiser dans les arts, dans les lettres, dans le droit. Mais quel prix, quelle valeur donner à la connaissance de Dieu et de sa parole? Donc voilà, notre premier devoir, c'est la formation des ouvriers pour remplir le mandat d'enseigner le monde entier. Ça, c'est la première. Dans les églises en France, la plupart des jeunes quittent les églises, 18, 19, 20 ans, quelles que soient les églises. C'est un mouvement de fond partout en France. Pour la première fois depuis 2-3 ans, Les enfants de familles évangéliques se convertissent à l'islam. Ça se fait par mariage. C'est souvent des filles qui sont séduites par un jeune et elles tombent dans l'islam. Ça, c'était jamais pensable. Aujourd'hui, si on n'est pas enraciné plus que jamais ailleurs dans une vision chrétienne du monde, on ne tient plus. On ne tient plus. Et Dieu veut lever une génération profondément dure dans son front et qui ne flotte pas. Un gars qui a plein de verve et qui va parler, qui va séduire avec un beau discours, il faut que nos jeunes puissent rire et dire « Mon pauvre gars, t'es encore loin, t'as encore beaucoup de choses à apprendre. » Il y a dans le psaume 119, verset 99, il y a un enfant qui parle et qui dit « Moi, je suis plus instruit que tous mes maîtres. » Vous allez me dire « Quel orgueil, quelle prétention !» Non, non, il dit « Parce que moi, je connais tes préceptes, Seigneur. » L'instruction, c'est construire dedans. Et nous, on construit tellement trop dehors seulement. On continue. Les commandements de Dieu, prenons-les. Vous avez le mandat culturel. Dieu les bénit, Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tout animal qui se met sur la terre. » L'Éternel prit l'homme, 2:15, hein, et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc notre mot culture, c'est répétition, vient du mot cultiver les champs. Dieu est un Dieu culturel. Il veut que le culte de l'Église, que nous faisons comme ce matin, déborde sur la culture. Un culte qui ne déborde pas sur la culture est un culte incomplet. Et on peut se demander, même si c'est vraiment le Dieu de la Bible qu'on adore, si notre culte ne déborde pas sur la culture. Et le premier mandat de la culture, c'est former et enseigner. Comment veut-on une culture chrétienne dans notre pays si on ne s'occupe pas de la formation culturelle, intellectuelle de nos enfants ? Pas possible. Donc, le mandat culturel, ça c'est le commandement à retenir. Et en tant que Josué et Caleb, Caleb veut répondre au mandat culturel. Josué, c'est le culte, préparation des ministères, formation, interpellation, adoration, louange. Caleb, c'est on veut toucher le monde, culture, spectacle, musique, tout ça. Et puis, Collège Daniel, donc, nous avons, et École Emmanuel, nous avons éducation. On continue. Les 10 commandements, donc je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, rien que ce commandement. Quand dans un domaine, on n'adore pas Dieu, eh bien automatiquement, on adore un autre Dieu. Ça c'est une vérité absolue. Par exemple, dans l'économie, si tu n'adores pas Dieu, tu vas tomber dans des philosophies d'économistes qui ne seront pas Dieu, qui seront idolâtres. Le mot biblique, idée, c'est le mot grec icon. Ça veut dire idole. Toute idée qui n'est pas dans le cœur de Dieu, ça devient une idole et ça devient un système de pensée. Donc, nous devons confronter les idéologies, c'est-à-dire l'idolâtrie. Le cœur de l'école chrétienne, c'est quoi ? C'est lever des adorateurs. En fait, c'est ça. Et l'adoration, c'est pas seulement chanter ou prier. L'adoration, c'est reconnaître Dieu dans sa création, dans un cours de maths, de sciences, de lettres. Je reconnais la marque de Dieu, j'adore. Les juifs d'ailleurs, ils sont forts, puisque en yiddish, le mot étudier, c'est le synonyme de adorer. C'est le même mot, il n'y a pas deux mots, c'est un mot. Tu étudies, ça veut dire que tu adores. Donc, l'adoration. Et s'il n'y a pas Dieu au centre, il y aura d'autres dieux. En France, le Dieu qui est au centre de l'école, c'est l'humanisme, pour l'instant. Ça risque d'être le nouvel âge avec plein de dieux qui arrivent. C'est en train de secouer à la porte, là. Et d'après moi, dans les années qui viennent, c'est la vague du New Age qui vient en masse avec des tas de dieux, et qui diront aux enfants, tu es ton propre dieu. On continue. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'aux enfants, sur la troisième, quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements. Donc là encore, c'est un commandement fondateur. Rappelez-vous, ceux qui entendent ça pour plusieurs fois, dites-vous bien, il faut le redonner aux autres. Donc vous le prenez comme un exercice de révision. Le commandement, c'est tu ne feras pas d'image de Dieu. Ça, on peut comprendre. Hein. Et puis d'ailleurs, la plupart des gens, ils comprennent ça. Ils disent, oui, c'est pas bien d'avoir une fausse image de Dieu. Imaginez un papa, qui a une fausse image de Dieu et qui la présente à son enfant, il n'en voudra pas de son image de Dieu. Et du coup, il ne voudra pas ce Dieu-là. Et c'est souvent, dans notre société française, l'image de Dieu qu'on a donnée est une image dont les gens n'ont pas voulu. Et heureusement, je dis franchement, heureusement. Attention à l'image de Dieu que l'on transmet. Et les gens, ils savent très bien ce qui a du goût ou ce qui n'en a pas. Ils veulent ce qui est bon. Et Dieu dit, goûtez Dieu, vous verrez comme c'est bon. Donc si on goûte le Dieu de la Bible, c'est bon. Mais les images de Dieu qui ont été fausses, attention. Et Dieu dit, je t'interdis de te faire tes petites idées sur Dieu. Je t'interdis. Je veux que tu reçoives qui je suis de ma parole. Mais alors, regardez, tu ne te feras pas de représentation de ce qui est sur la terre. Alors là, on a un problème. Là, on a un problème. Parce que, alors, il y en a qui disent, mais alors, notre Louvre, nos peintres, Rembrandt, tout ça, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire des peintures? Il y en a qui ont pensé que c'était ça, vous voyez, il ne faut plus peindre. Alors, tout ce qui est là, hein, ça serait au feu, hein, par exemple. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Il dit, je t'interdis de te faire ton idée de la création. Je t'interdis de l'interpréter tout seul. Je t'interdis de te dire qu'une famille, ça peut être ceci, cela, cela. Dieu dit, je t'interdis de faire ces représentations-là. Moi, je dis qui c'est la famille, qui c'est un homme. Je parle, qu'est-ce que le mariage? C'est Dieu qui dit, c'est pas l'homme qui dit. Et l'homme a voulu dire, et dire, Dieu, écoute, ça y est, c'est ringard. Moi, je vais dire, j'aurai des meilleures définitions. Et on est comme ça, on part comme un bateau à la dérive. Mais Dieu dit, je t'interdis de faire des représentations. Toute école, toute université transmet des représentations de ce qui est sur la terre, avec des définitions, etc. Et Dieu dit, je t'interdis. Donc ça montre bien que le mandat de l'Église est un mandat de représenter Dieu dans tous les domaines et de chercher la pensée de Dieu pour la transmettre dans tous les domaines. Ça, mes amis, c'est un gros problème actuellement, ce commandement-là. Excusez-moi, mais rien qu'avec ça, ça justifie la nécessité d'écoles chrétiennes et d'universités. Ça n'a rien à voir. Même il n'y aurait pas eu Payon, les lois du genre et tout ça. Le problème, c'est que les gens, ils attendent qu'il y ait des problèmes pour dire, bah, tiens, au fond, ça, on ne peut plus quand même continuer comme ça. Mais il n'y a même pas besoin qu'il y ait des problèmes pour prendre notre responsabilité. Parce que même quelqu'un qui a une représentation du monde qui est assez chouette, qui est sympa, voyez, qui, eh bien, même ça, c'est pourri. Parce que Dieu dit, c'est ma représentation que je veux donner aux enfants. On continue. La sagesse qui interprète la réalité. Salomon, rappelez-vous ce roi Salomon. Salomon nous parle et nous annonce le royaume de Dieu. Le but de l'Église, c'est d'amener le royaume de Dieu, ce qui est dans le ciel, sur la terre. Ça, c'est le but de l'Église. Et le but de l'Église, ça se fera avec une génération de Salomon. Ça veut dire qu'elle sera précédée d'une génération de David. Ça veut dire qu'elle sera précédée d'une génération qui fait la guerre. La guerre, ça fait 30 ans pour certains qui sont là, qu'on l'amène. On s'est battu, on a reçu des coups, on a reçu des blessures, on a été calomnié, on n'était pas compris. Et Dieu dit toujours, regarde les Salomon. Et Dieu dit à cette génération d'enseignants qui se lèvent et d'éducateurs, regarde les Salomon et continue la guerre. Face de lion contre les puissances spirituelles et face d'agneau pour les enfants et les jeunes. Et Salomon, il a fait la première prière, rappelez-vous, Seigneur, donne-moi un cœur sage, intelligent, pour que je puisse gouverner. Dieu appelle chaque enfant ici à gouverner. J'aimerais rappeler à chacun ici que tu es un jour, tu es appelé à régner, non seulement sur la terre, mais dans le ciel et pour l'éternité. Ta destinée, mon ami, c'est de régner. Et donc, Salomon, il a compris ça. Il a dit, je ne peux pas régner sans la sagesse de Dieu. Et il a demandé cette sagesse et il l'a reçue. Et Dieu était tellement content par sa prière qu'il a dit, écoute Salomon, puisque tu ne m'as pas demandé de la richesse, un bon job, une bonne orientation scolaire, tu ne m'as pas demandé ça en premier, tu m'as demandé la sagesse en premier. Eh bien, à cause de ça, non seulement je te donne la sagesse, mais tout le reste, tu le donnes avec. Et Salomon a manifesté le royaume de Dieu. Mais comment cette sagesse s'est manifestée? Un des aspects, c'est ça. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Il a prononcé 3000 sentences, composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a parlé aussi sur les animaux, les oiseaux, les reptiles, les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. La sagesse de Salomon, c'est le discours sur la création. C'est l'interprétation de la création. C'est la définition juste de qu'est-ce qu'un arbre, qu'est-ce qu'une plante, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que l'économie. Ça, c'est l'onction de Salomon. Et l'onction de Salomon, ça annonce le règne de Dieu. Et c'est pour ça que l'ennemi ne veut surtout pas faire le lien entre tout ça. Il dit, vous, Église, restez dans vos cultes. Restez à adorer avec vos chants et vos prières. Et déjà, il craint ça. Mais quand il ne peut pas bloquer ça, il dit surtout, vous ne sortez pas de là. Hein. Et vous ne vous occupez pas de formation. Ça, c'est pour l'État. N'y touchez pas. C'est trop dur pour vous. Vous n'êtes pas compétent. Aujourd'hui, on reçoit parfois des jeunes, ils ont 12 ans. Ils ne savent pas lire et écrire. Dans le temps des Huguenots, les mamans huguenotes, sans éducation, qui savaient lire la Bible, elles enseignaient à leurs enfants à lire et écrire. À 5 et 6 ans, ils savaient lire et écrire. Il n'y avait pas 5 ans après le bac, mes amis. Hein. Il y a quelque chose dans ce pays que Dieu veut relever. Il y a un mandat qu'il veut redonner. Il y a une onction de Salomon qui va parler sur les arbres. Imaginez un cours de biologie donné avec révélation de Dieu et onction. Et les gens vont vouloir se précipiter pour l'écouter. Mais qu'est-ce qu'il y a ? On n'a jamais entendu ça. Imaginez ça. Ça, c'est ce que Dieu veut redonner. À Daniel, Dieu lui a dit, écoute Daniel, je vais te donner de la sagesse dans les sciences et dans les lettres. Dieu a quelque chose à dire. Laissons-le parler sur ces domaines. On continue. Les commandements, la marque, tu inculqueras la parole à tes enfants. Hein, et ça sera comme des frontons entre tes yeux, donc ça parle du front. Apocalypse 13, la bête, elle fait quoi? Elle met une marque ou ça? Sur le front. Et sur la main. C'est quand même dingue cette histoire. Le travail de la bête de l'antéchrist, c'est mettre des marques sur le front. Alors pendant qu'il y a des gens qui écrivent, qui disent la bête, ça va être quoi? Ça va être la puce, on va la mettre sous la peau, tout ça. C'est quoi? Est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi pas? J'en sais rien. Mais bibliquement, la marque sur le front, c'est la formation des mentalités. Donc ça fait depuis longtemps que cette marque veut être là. Et donc pendant que nous, évangéliques, on se dit, mais c'est quoi cette marque? Eh bien, pendant ce temps, on perd nos enfants et nos jeunes. Et Dieu dit, je veux que tu mettes une marque sur les fronts, qu'ils sachent en quoi ils croient, pourquoi ils croient, pourquoi ils ne croient pas ce qu'ils ne croient pas, etc. On continue. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain. Aimer Dieu de toute sa pensée. Comment voulez-vous lever une génération qui aime Dieu avec sa pensée, s'ils apprennent à penser sans Dieu? Il y a des gens qui pensent que ça va leur donner le discernement. Ils vont apprendre à penser sans Dieu dans toutes les matières. Et ensuite, vous verrez le disciple que ça sera. Super discernement. Ils vont pouvoir. Mais non, rien du tout. Ils n'ont aucune arme. Ils sont comme tout nus. Tout nus devant les philosophies de ce monde. Ah ben mince, celui-là, il dit ça. Oh là là. Oh là, ben c'est dur. Ben ma croyance en la Bible, au fond, tout nu. Pas d'armes. Pas aiguisées. Pas enseignées. Pas nourries. Pas formées. Donc c'est normal. Après, on se retrouve avec des philosophies de dingue et on tombe dans les pièges. Dieu dit, attention, hein, tu vas m'aimer. La pensée, elle est faite pour aimer. Vous vous rendez compte? Elle est faite pour aimer, pour reconnaître Dieu, pour l'aimer. L'amour est le cœur de l'éducation. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés, où ça? Dans l'intelligence. Pourquoi? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'ennemi, il est là, il dit, bon, comment empêcher les destinées des gens? Ah ben, c'est très simple. Je touche leur intelligence. J'empêche le renouvellement de l'intelligence. Alors, bon, s'ils se convertissent, ça va m'embêter. Bon, ça m'embête dans mon royaume, ça m'embête. Mais si jamais ils vont commencer à penser comme Dieu, alors là, ça m'embête encore plus et je vais tout faire pour qu'ils ne pensent pas comme Dieu. Obscurcissement de l'intelligence. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Donc, attention, Dieu dit, sois renouvelé. Pourquoi? Pour connaître la volonté de Dieu. Sur les bancs des églises, il y a tellement de gens, adultes, qui connaissent Dieu depuis 30 ans et qui ne savent pas la mission que Dieu a pour eux. Pourquoi? Parce que là-dedans, ça a été farci de philosophie de ce monde. Et donc, Dieu ne condamne pas, mais Dieu dit, voilà, offre-toi à moi, sois renouvelé. On continue. Voilà, deux couronnes. Jésus qui a porté une couronne d'épines. Et ça fait partie de l'œuvre de la croix. Souvent, on l'oublie. Mais cette couronne d'épines qui rentre dans le front. Ce qui rentre dans le front, c'est quoi? C'est les fausses philosophies, les idées tordues des gens. Les gens qui disent la famille, c'est comme ça, et c'est pas comme ça. Ça, c'est des épines. Des gens l'acceptent. Ça rentre dans le front. Ça devient une manière de penser. Vous voyez? Ça devient habituel. On pense comme ça parce que la culture, c'est comme ça. Mais Dieu dit, moi, j'ai payé. Chaque épine est rentrée dans mon front. Le but, pourquoi il a porté une couronne? Pour que nous et nos enfants, on puisse porter une autre couronne. Et c'est dans Proverbe 4, recherche l'intelligence, recherche la sagesse, donne-toi tout entier à ça. C'est plus précieux que l'or, plus précieux que tout, dit la parole de Dieu. Et quand tu auras recherché cette sagesse, je vais te la donner et ça sera une couronne. Et une couronne, c'est fait pour régner, mes amis. On ne règne pas sans couronne. On ne règne pas avec un vêtement blanc. Le vêtement blanc ne suffit pas pour régner. Le vêtement blanc te réconcilie avec Dieu. La couronne te fait régner sur le monde. Et entre les deux, il y a quoi? Il y a la transmission de la sagesse. Jésus a payé le prix. Il a dit, j'ai été fait pour toi. Justice, je t'ai justifié. Rédemption, je t'ai racheté. Sanctification, j'ai fait de toi un peuple à part, destiné. Et sagesse. Si simplement ce verset de 1 Corinthiens 1, 29, on l'avait pris au sérieux. Si simplement on avait compris que dans l'œuvre de la croix, il y avait Jésus qui nous disait « Je suis mort, pas seulement pour pardonner tes péchés, pas seulement pour te justifier, mais pour te transmettre une autre sagesse, pour te transmettre ce que je suis, une autre vision du monde. » Donc voilà les deux couronnes, on continue. Et nous avons l'échange d'un Corinthiens 1, 30. Hein. En Jésus-Christ, vous êtes fait sagesse, justice. Sanctification, rédemption. On continue. Voilà, on va aller aimer Dieu de toute sa pensée. Vous avez ici des passages qu'on ne va pas relire, mais lorsqu'il dit l'apôtre Paul, nous avons des armes puissantes pour renverser les raisonnements. Ça veut bien dire qu'il y a des raisonnements qui empêchent de connaître Dieu et de le voir. Il y a des raisonnements qui sont là. Moi, souvent, quand on discute du rapport science et foi, on nous balance l'histoire de le procès de Galilée, tout ça. Vous avez vu l'Église, comme elle est obscurantiste et tout ça. Il faut arrêter avec ça maintenant. On oublie tout ce qui a été fait par les chrétiens, par l'Église, etc. Un seul, une grosse gaffe, bien sûr, je vous l'accorde, et ça, on nous la refile tout le temps. Donc Dieu dit, abat les raisonnements, abat les murs de raisonnement, et que tout ce qui est aimable soit l'objet de tes pensées. On continue. Vous avez ensuite la notion de... Je vais essayer d'aller un petit peu vite, on arrive bientôt à la fin. On continue, l'autre diapo. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel quant à toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur fait connaître. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Donc Dieu dit, dans la création on peut me voir. Le problème c'est qu'il y a des gens qui disent, dans la création on ne voit rien du tout, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu dans l'histoire, il n'y a pas de Dieu nulle part. Donc qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? Ils sont donc inexcusables, ayant connu Dieu. Comment ils l'ont connu? Le rapport à la création. Ils ont connu quelque chose de lui, mais ils ont refusé de le reconnaître. Qu'est-ce qui se passe? Obscurcissement des pensées, cœur sans intelligence, plongé dans les ténèbres. Donc l'obscurcissement des pensées vient du fait qu'on ne reconnaît pas Dieu. Vient du fait que dans ce pays, il y a une connaissance qui n'aboutisse pas à une reconnaissance de celui qui est le fondement de tout. Voyez, on continue juste. Donc voilà, on l'a cité déjà, de Pierre, donc on peut aller plus loin. Voilà, les psaumes, les cieux racontent la gloire de Dieu. Hein. Galilée lui-même dit qu'en contemplant la richesse de l'univers, il s'est senti porté à adorer la beauté du Créateur. Ça, c'est la science. La science, c'est quoi? C'est la science de ce que Dieu a fait. Et ça amène à l'adoration. On continue. Vous avez connaissance qui amène la reconnaissance. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, Apocalypse 4, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Pourquoi il est digne d'adoration? Parce qu'il a créé toutes choses. Tu enlèves à une génération l'idée d'un Dieu créateur. Tu enlèves l'adoration. C'est simple. Tu enlèves des écoles l'idée d'un Dieu créateur. Tu enlèves la reconnaissance, tu enlèves l'adoration. Le fondement de l'adoration, c'est dans la tête. Dieu, tu as créé toutes choses. Pour ça, je me réjouis en maternelle. Leur premier programme, c'est Dieu créateur. Dieu qui t'a créé, tu étais fait par lui. Ça, c'est le fondement pour affronter la vie comme aucun autre fondement peut être posé. On continue. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le disciple n'est pas plus que le maître, tout disciple sera comme son maître. Et ça, c'est une grande espérance pour ceux qui travaillent dans le public. Parce que même s'il n'y a pas le discours chrétien que l'on peut donner, ce qu'on est, ça passe, et c'est souvent ce qui passe le plus. Là où tu es, il y a le royaume. Donc là où tu es, il y a le Christ. Et attention, ça, tu peux avoir une marque indélébile sur tes élèves, même si tu n'es pas en école chrétienne. Si tu es dans le champ que Dieu t'a donné, ce champ-là est destiné à être touché par toi. Donc attention, ce message-là, ce n'est pas pour culpabiliser ceux qui sont en public, au contraire, hein, que ça vous encourage aussi. On continue. Mardochée, alors Mardochée, qui a pris cette fille Esther, vous connaissez, qui n'avait pas de parents, et il l'a adoptée. La formation d'Esther, c'est dans la maison de Mardochée. Il n'y aurait pas d'Esther s'il n'y avait pas eu des Mardochées, d'accord ? L'onction des écoles chrétiennes, c'est les Mardochées. Viens dans la maison, viens, on va apprendre à vivre, on va apprendre sur Dieu, on va apprendre la crainte de Dieu. Et Mardochée, il a formé Esther. Et même Esther, quand elle est devenue reine, elle a continué à obéir à Mardochée. C'est incroyable. Elle aurait pu dire, maintenant Mardochée, ça suffit, t'es vieux, t'es rabougri, maintenant je suis reine, c'est moi qui commande. Mais non, elle a compris qu'il y avait quelque chose de Dieu dans cet homme. Et elle a suivi cet homme. Et l'onction de Mardochée, ce n'est pas seulement la gentille onction qui adopte les enfants et cette génération, mais c'est l'onction de celui qui est dans le palais du roi et qui refuse de plier devant le ministre. Monsieur le ministre, je plie devant vous, vous êtes beau. On doit honorer nos autorités, mais on ne doit pas plier le genou devant les philosophies de ce monde. Et on a assez plié le genou. Et maintenant, on est debout. On est debout maintenant, mes amis. Et gare à celui qui va vouloir nous faire rasseoir. Parce que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ce qui touche à l'onction de Dieu, de ce que Dieu est en train de faire, attention. Dieu est en train de bâtir lui-même. Il forme ses princes, ses princesses. On continue avant-dernière. Dans le livre de Josué, Josué, nom de l'Église. Je t'ai donné toute cette terre, la France, les nations. Ouh là là, ça fait beaucoup. Et à la fin, Josué, il s'est battu, mais il y avait des territoires qui n'étaient pas pris. Et alors, c'est là que Caleb arrive. C'est pour ça qu'il y a l'association Caleb. Caleb, en hébreu, ça veut dire Caleb, de tout son cœur. C'est ça ce que ça veut dire en hébreu. Tout son cœur. Tout à l'heure, on a chanté, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Tout le cœur. Ça, c'est l'esprit de Caleb. Caleb, c'était celui qui avait une autre identité. Son identité était en Dieu. Et Caleb, il voit une montagne que Josué n'avait pas prise, dont il n'avait pas fait la conquête. Il voit cette montagne, et sur cette montagne, il voit une forteresse, une balèze de forteresse. Tout le monde avait la trouille. On avait pris la plaine, on avait oublié de prendre les hauts lieux, les villes fortifiées. Et Caleb dit à Josué, donne-moi cette montagne, la pire, celle que personne... Tout le monde fait le combat spirituel, mais ça quand même, on ne va pas y attaquer. Tu vois. Hop, on fait un petit détour. Caleb dit, non, c'est celle-là que je veux. Et vous savez ce qu'il y avait sur cette montagne ? Cette montagne, on passe à la diapo suivante. Cette montagne, elle s'appelait Débir, c'est-à-dire parole. Kiryat Sefer. Sefer, ça veut dire la ville des lettres. C'est Kiryat Sefer, ça veut dire la ville des sciences et des lettres. Comme par hasard, Josué avait fait la victoire, rempli la victoire sur beaucoup de domaines, mais il ne s'était pas attaqué à ça. Aujourd'hui, le domaine des écoles et l'université, c'est comme cette montagne fortifiée. Il y a Kiryat Sefer. Et Dieu dit, Caleb, est-ce qu'il y a encore des Caleb pour dire, moi je veux cette montagne ? Quand tu vois une université, ceux qui allaient à Strasbourg, les élèves qui allaient à Strasbourg cette année, je te conseille, je t'encourage à réclamer Strasbourg et l'université de Strasbourg pour Dieu. Parce que cette université a rayonné avec la parole de Dieu pendant des siècles. Et aujourd'hui, cette parole était foulée aux pieds. Il est temps qu'il y ait une génération qui dise, moi, je veux faire des études, je veux aller à un doctorat pour transmettre non seulement des savoirs, mais le Christ aussi. Et ça, je vous encourage à aller au bout, mes amis. Kiryat Sefer, c'est la ville que Caleb a prise. Et il a dit ceci, il a dit, celui qui la prendra, eh bien, je lui donne ma fille. Et sa fille, elle était drôlement jolie. Et alors, vous connaissez, on l'a déjà enseigné là-dessus, et un jeune homme, il a vu la fille, il a dit, waouh, si je prends cette ville, j'ai la fille, ça vaut le coup. Et alors, il a attaqué la ville, il a eu la ville, et donc il a eu la fille. C'était quoi la motivation de ce jeune homme? C'était l'amour. Donc, les écoles chrétiennes, la motivation, c'est pas ouais, on va prendre le pays, on est les meilleurs, on a la vision de Dieu, ça n'a rien à voir avec ça, mes amis. La motivation, c'est une passion pour le Christ. La motivation, c'est une passion, c'est voir le Christ dans chacun de ces jeunes. La motivation, c'est le cœur de Dieu. C'est la passion de l'amour. Et quand on est passionné par l'amour, alors on est prêt à tout. Regardez les amoureux, ils sont complètement fous. Ils s'en foutent du fric, ils s'en foutent du logement. Ils sont ensemble, ils s'en foutent de tout. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Si tu marches avec Dieu, t'en fous de tout le reste. Tu es passionné par lui. On continue et on termine l'onction d'Élisée. On l'a cité, c'est Vito qui l'a cité tout à l'heure. Élisée s'est couché sur l'enfant. Il a mis sa bouche, ses yeux, ses mains sur ses mains. Et voyez, le ministère de l'enseignement, c'est la bouche. Les yeux, c'est transmettre une autre vision du monde. Les mains, c'est transmettre d'autres modèles, d'autres pratiques de vie. Ça, c'est l'onction d'Élisée. Mais pourquoi nous avons l'onction d'Élisée? Parce qu'il y en a un qui s'est couché sur nous, c'est Jésus. Et comme a rappelé Vito, il a mis sa bouche sur notre bouche. Il a soufflé l'esprit. Il a mis ses yeux sur nos yeux. Il nous a donné de nous voir, de le voir lui différemment. Il a mis ses mains percées, on l'a chanté tout à l'heure, sur nos mains. Et c'est à cause de ça que nous, on peut faire la même chose. Voilà, on veut s'arrêter là. Et simplement, Seigneur, simplement merci pour ce rappel de cette vision qui nous anime en tant qu'Église, en tant que ministère. Et nous voyons comme un privilège le fait qu'en tant qu'Église, on couvre de nos prières, de notre amour, de notre cœur, de nos forces, de nos finances. On couvre ce Collège Daniel, ce réseau d'écoles, cette mission qui est là. Il y en a beaucoup d'autres que nous avons. L'Église ne se limite pas à ce mandat d'éducation. Mais ce mandat, si on ne l'a pas, alors le reste, ça ne sert à rien. Alors Seigneur, fortifie ton héritage. J'inviterai les enseignants, les personnels administratifs, éducateurs, ceux qui vont rentrer soit dans le public, soit dans le privé, soit dans les deux, à venir devant. Vous allez voir, ça fait l'Église, il y aura un dépeuplement là. Donc venez devant.